Chapitre 16. À la vérité, je n'avais jamais cru que nous atteindrions l'arête nord-est de l'Everest à 8800 mètres d'altitude. Mais chaque fois que j'avais rêvé cet instant, je nous avais imaginé tous les trois nous serrant la main solennellement, nous tapant dans le dos fraternellement, ou contemplant seulement le monde de l'un de ses points les plus hauts. Quand nous arrivâmes sur l'arête, nous étions en fait trop fatigués pour avoir la moindre réaction. La seule vint de Jean-Claude, qui tituba jusqu'à un rocher à proximité, tira sur son masque et vomit. Passang contempla le sud comme si quelque chose l'attendait là-bas. Quand nous fûmes un peu reposés et que nous eûmes inhalé de l'air anglais réglé sur le haut débit, le diacre, Reggie et moi sortîmes nos jumelles pour examiner les pentes en bas, cherchant à repérer les Allemands qui voulaient tant nous rattraper et nous tuer.
« Les voici, » dis-je en pointant le doigt. « Tous les cinq. Ils grimpent vers les fissures de sortie au-dessus de la bande jaune, à environ 100 mètres au nord-ouest de notre camp 6. Ils auront atteint notre arête d'ici à 40 minutes. Vous les voyez ?»«
Oui. »
Le grimpeur de tête, le plus puissant des cinq, à en juger par sa progression et la brièveté de ses arrêts, portait un fusil en travers de la poitrine.
« Vous croyez que c'est Bruno Siegel ?»
demandai-je au diacre.
« Comment voulez-vous que je le sache, Jake ? » répliqua-t-il. « Ils ont tous des anoraks blancs de camouflage à capuche et des foulards ou des masques blancs sous leurs lunettes. Impossible d'identifier Siegel à cette distance. » « Mais vous pensez que c'est lui ?»
insistai-je.
« Oui, »
répondit le diacre en baissant ses jumelles, qu'il laissa pendre sur sa poitrine.
« C'est leur leader, leur meilleur grimpeur, et le plus déterminé à nous trouver et nous éliminer. Et il grimpe avec une espèce d'agressivité anormale. Je crois que c'est lui. »
« Il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, Richard. Madame Reggie, »
dit J.C. Il avait pris un peu d'eau de sa gourde, se rinça la bouche et cracha dans la neige.
« Qu'est-ce que ce Kurt Meyer, ou votre cousin Percy, aurait pu prendre au gouvernement allemand qu'il veuille à ce point récupérer ? Après tout, la France et l'Angleterre sont en paix avec l'Allemagne. » Pour le moment.
Reggie soupira.
Ce n'était pas sur le gouvernement allemand actuel que Percy avait pour mission de s'informer,
dit-elle.
La République de Weimar est faible et irrésolue. C'est sur ce groupe de nationalistes extrémistes que notre ami commun à Richard et moi, a demandé à Percival de rassembler des renseignements.
L'Allemagne est remplie de groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche, dit J.C.
Oui, mais seuls les nazis, le groupe auquel Bruno Siegel et ses compagnons appartiennent, représentent une grave menace pour la Grande-Bretagne et la France. Pour les années et les décennies à venir. Du moins, d'après notre ami qui signe tant de chèques, mais préfère l'or.
J'en ai par-dessus la tête de vous entendre parler en langage codé, tous les deux,
dis-je entre deux terribles quintes de toux.
J'étais en colère. Les espions, même de notre côté, sont censés travailler pour des gouvernements, des ministres, des services secrets, pas pour des individus qui aiment l'or. Bon sang, dites-nous de qui vous parlez et comment un seul homme peut envoyer des espions en Allemagne. Nous risquons nos vies ici. Nous avons tout de même le droit de savoir qui est ce maître espion britannique.
Dans ce cas précis, il a envoyé des espions en Autriche,
corrigea Reggie.
Et vous le rencontrerez peut-être un jour, Jake. D'ici là, nous devons décider quoi faire. Et vite. Ces sales... Ces Allemands seront sur l'arête nord-est dans 40 minutes. Et nous serons bientôt dans leur ligne de mire.
On n'entendit plus que le mugissement du vent dans le silence qui suivit. Si le temps avait été calme sur la face et dans les goulottes, le vent soufflait fort ici sur l'arête nord-est et projetait sur nous une écume de spindrift depuis le sommet à moins de 300 mètres au-dessus. Nous devions désormais crier pour nous faire entendre, ce qui était encore plus douloureux pour ma gorge irritée et comme obstruée. Je décidai de me taire et de laisser les autres se débrouiller. En fait, je me fichais complètement de l'identité de ce chef espion britannique. Tout ce que je savais, c'est qu'à cause de lui, Bromley et Meyer s'étaient fait tuer et que nous allions sans doute y laisser notre peau, nous aussi. À environ 100 mètres sous l'arête, Jean-Claude m'avait tapé sur l'épaule en disant
« Jake, vous avez toujours le piolet de Monsieur Irvine !»
Il avait raison. Nous avions décidé qu'il valait mieux laisser le cadavre où il était, puisqu'une autre expédition britannique passerait certainement par là un an plus tard, 2 ans tout au plus. Si nous l'enterrions, et que notre expédition devait rester secrète pour quelque mystérieuse raison, les autres alpinistes ne le retrouveraient jamais. Tel était le raisonnement du diacre. Mais j'avais distraitement emporté le piolet de Sandy Irvine avec ses 3 encoches caractéristiques. Alors, quand J.C. me l'avait fait remarquer, je le posais sur un rocher, sa pointe de métal orientée vers le bas et vers le corps invisible dans la goulotte où des ascensionnistes pourraient le voir. Comment aurions-nous pu deviner qu'aucune expédition britannique ne tenterait plus l'Everest avant 1933 et que s'ils allaient retrouver le piolet là où je l'avais posé, ils ne descendraient pas la pente à la recherche d'Irvine lui-même?
Nous devons escalader le premier ressaut ou le contourner, disait le diacre. Mettre cet obstacle entre les Allemands et nous. Qu'en pensez-vous, Jake? Vous êtes notre rochassier. On grimpe ou on fait une traversée à la base? Et si on grimpe, on essaie par les gros blocs rocheux, ou plutôt les rochers du côté gauche de l'arête, plus près de la face du Kangchung.
Je me forçais à sortir de ma rêverie et m'approchais de quelques pas du rebord sud de l'arête. Nous nous étions habitués, en gravissant la face nord, à nous exposer à des chutes de plusieurs milliers de mètres, mais du moins avions-nous l'illusion d'une pente graduelle avant que tout devienne vertical. Du côté sud de cette arête nord-est singulièrement étroite, il y avait un précipice de plus de 3000 mètres et tout en bas, la mâchoire de requin du glacier du Kangchung. Et rien entre les deux à part le hurlement du vent.
« Bon Dieu de merde !»
m'entendis-je dire en jetant un coup d'œil vers le précipice.
« On ne saurait mieux dire !»
confirma Jean-Claude. Il se tenait près de mon épaule droite. Sa présence juste derrière moi me gêna en cet instant. Je fis un pas en arrière, levai les yeux vers l'obstacle de pierre que constituait le premier ressaut et l'examinai un long moment. Une inquiétante couronne de cirrus blanc se formait au sommet de l'Everest.
S'il fallait gravir ce premier ressaut en escalade libre, comme Mallory et Irvine ont dû le faire,
dis-je avec plus d'assurance dans la voix que je n'en ressentais,
« je conseillerais de rester à gauche, près de la face du Kangchung. Plus facile, davantage de prise de main. Mais nous disposons de bonnes cordes et des jumards de JC. Je recommanderais donc qu'un grimpeur, débarrassé de son sac et de ses bouteilles d'oxygène, escalade ces blocs difficiles à droite et pose des cordes fixes jusqu'en haut pour que les autres puissent monter plus aisément en s'aidant des jumards. »
J'étais certain que le diacre allait me demander d'effectuer l'escalade. J'étais leur spécialiste de la roche. C'était la raison pour laquelle ils m'avaient amené avec eux sur le toit du monde. Ils ignoraient cependant qu'une langouste aux pinces coupantes avait élu domicile au fond de ma gorge et en haut de ma trachée. Chaque fois qu'elle bougeait, elle me bloquait la respiration presque complètement.
« Je vais prendre la tête de cette longueur !» déclara le diacre. « Nous gardons Jake pour le deuxième ressaut. C'est là que les choses sérieuses commenceront !»
Je ne discutais pas. Nous avions avancé jusqu'au pied de l'amoncellement de blocs sur le côté sud du premier ressaut et préparions des cordes. Le diacre avait enlevé son sac à dos et ses moufles quand je m'exclamais soudain
« Attendez ! Et si nous cherchions le corps de Bromley sur cette face nord du premier ressaut ? Je croyais que c'était le plan !»
Reggie m'agrippa le haut du bras.
« On l'a déjà fait, Jake. Nous avons trouvé Sandy et Irvine à la place. Il nous faudrait des heures, des jours, pour fouiller toutes ces goulottes. Et vous voyez qu'il n'est pas sur la face sud de cette arête. De plus, je crois que Camille a raison. Quoi qu'il ait vu, trois silhouettes, puis une seule. Ça s'est passé sur cette arête, entre le premier et le deuxième ressaut, à côté d'un bloc rocheux ressemblant à un champignon. C'est là que nous allons regarder à présent, une fois que nous aurons passé ce premier ressaut.
De toute façon, Hersiegel et ses amis avancent trop vite pour qu'on s'attarde ici, dit le diacre. Mais...
Commençais-je ? Je dus m'interrompre le temps que ma toux passe. Reggie me posa une main dans le dos.
« Passang !»
dit-elle au Sherpa silencieux.
« Pouvez-vous donner quelque chose à notre ami ?»«
Pas de codéine, » répondit-il. « L'effet serait trop soporifique à cette altitude. Mais j'ai un ancien remède hindou dans mon sac, si vous voulez bien l'essayer. »«
D'accord !»
dis-je. Et je tendis ma moufle pendant que le docteur Passang fouillait dans sa petite trousse médicale. Passang posa dans ma main une boîte de pastilles pour la toux Smith Brothers, parfum menthol, sorti seulement 2 ou 3 ans plus tôt. Reggie regarda par-dessus son épaule et rit, mais j'ouvris la boîte et gobai 3 pastilles.
« Je suis prêt à grimper !»
annonça alors le diacre, s'attachant à une corde et passant un gros rouleau autour de son épaule.
« Qui veut m'assurer ?»«
Moi, » répondirent Reggie et J.C. en même temps. Tous deux passèrent la corde par-dessus leur épaule et Jean-Claude l'accrocha autour d'un fin bloc vertical. Tous deux dirent de concert « Quand vous voulez ». Le diacre secoua son extrémité de la corde d'assurage pour lui donner du mou, observa un instant l'affreux amoncellement de blocs abrupts et commença à grimper de cette manière déliée d'araignée électrifiée qui lui était propre. Son style, quoique inélégant, était indéniablement efficace sur la plupart des parois. Il déroulait la longue corde à mesure qu'il grimpait d'une prise de main à une prise d'orteil, à une autre prise de main précaire, montant toujours, bras et jambes écartés, en se servant de la vitesse qui permettait au grimpeur de rester accroché à la roche verticale, ne serait-ce que par la plus infime friction. Je me détournais et levais mes jumelles. À moins de 800 mètres derrière nous, les Allemands prenaient pied sur l'arête nord-est, à la même altitude que nous. Je les vis s'arrêter un long moment pour reprendre leur souffle, puis leur leader, le fusil en travers de son torse, dit quelque chose, fit un geste, et tous les 5 se remirent en route vers nous.
« Dépêchez-vous !»
criai-je au diacre.